On vous reçoit avec le plus grand plaisir. Et surtout avec d'autant plus de plaisir que vous avez été joueur de rugby. Et que, d'ailleurs, vous en avez un peu le format. Et je pense pas que vous ayez été ailier, mais enfin, c'est, je peux
pas
me tromper.
Pas trahi par son physique, c'est sûr.
J'ai plutôt un gabarit de deuxième ligne, effectivement.
De deuxième ligne, etc.
Et un caractère aussi.
Et un caractère, oui. Donc, vous avez été joueur de rugby. Donc, un joueur de rugby, ça peut pas être un mauvais garçon. Pour moi, un joueur de rugby, c'est quelqu'un avec qui on sort de la tranchée. Bon, il y en a quelques-uns qui restent... Qui se font allumer, mais ça fait rien. On a été en guerre ensemble.
Il y a deux communautés où j'ai ressenti ça, c'est les rugbyman, effectivement, et les motards. Il y a une solidarité très particulière, une vraie camaraderie très sincère chez les motards. Et un état d'esprit très positif aussi, je trouve. Donc, oui, je partage complètement. On a coutume de dire que le football est un sport de gentleman joué par des voyous, que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen.
Oui, les gentlemen, de temps en temps quand même, ils ouvrent la boîte à claques, quoi. ils sont gentlemen pour la bière après. Pendant le match, il y avait des pieds traînés ou des gens qui marchaient dessus. En fait, tout ça, c'était...
En tout cas, le rugby se développe massivement en France et ça, c'est vraiment bien, quoi. Je vois que ça arrive même en Bretagne.
Mais oui,
c'est en train de remonter. Il y a Vannes.
Il y a La Rochelle, qui est devenue
très fort, incroyable, La Rochelle, incroyable.
Mais qui était rien du tout. Dans ma jeunesse, La Rochelle, le rugby s'arrêtait à peu près à aller à Cognac, quoi. Puis au nord, là, c'était des terres. Donc, sur le rugby, maintenant, je m'attends à voir une équipe à Lille un jour.
Pourquoi pas? Et moi, c'est un des petits plaisirs, une des petites joies de mon métier de ces dernières années, c'est que j'ai la chance d'avoir été contacté par plein de rugbyman qui s'intéressent à l'éducation financière. Et entre autres, le pilier de Bordeaux, ancien de l'équipe de France, dont je vais retrouver le nom tout de suite. Là, je ne l'ai pas tout de suite, mais...
Il est très très bon.
Et lui, il s'occupe beaucoup des joueurs, entre autres, et on échange là parce que il y a aussi chez les jeunes sportifs un vrai sujet d'éducation financière et d'accompagnement, parce que souvent, ils tombent quand même dans des systèmes de suivi financier pas terribles, nos amis jeunes sportifs. C'est le cas aussi chez les jeunes des centres de formation de football. Donc il faudrait... ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis pour pouvoir les accompagner, ces jeunes sportifs.
Mathias Vatineau, bonjour. Donc déjà, très content de vous recevoir sur notre chaîne de l'Institut des Libertés.
Merci.
Vous avez un profil vraiment particulier. Enfin, en tout cas, vous avez beaucoup vécu dans ce milieu financier, mais dans deux mondes, à l'intérieur d'un monde qui sont très différents, à savoir la banque traditionnelle par la BNP Paribas, et puis depuis quelques années par Trade Republic, qui est donc une fintech, donc qui se développe de plus en plus comme une espèce de banque en ligne. Donc d'abord pour l'investissement, et puis ensuite pour la banque. Alors déjà, qu'est-ce que vous pouvez me dire comme grande différence entre ce monde plus traditionnel de la banque traditionnelle et ce monde de la fintech, en fait, des néobanques?
Là, ça a été pour moi un choc colossal. C'est des univers qui sont extrêmement différents. On peut d'abord citer quand même ce qui, moi, m'a le plus perturbé, le plus choqué ces dernières années, c'est la différence de capacité à gérer des projets informatiques. C'est-à-dire que vous avez des banques traditionnelles qui fonctionnent souvent sur base d'un empilement, en fait, de systèmes d'information issus de fusions, d'acquisitions, de rapprochements entre banques, etc. Et des systèmes qui coûtent extrêmement cher à maintenir, quoi. C'est vraiment dramatique. Ça ne permet pas non plus de développer de nouvelles fonctionnalités assez vite et facilement. Donc l'immense différence, c'est celle-là. C'est-à-dire, chez Trade Republic, on peut développer quelque chose en un mois, alors que dans une banque traditionnelle, ça prend des années sur les fameuses roadmaps de développement technologique. Donc c'est un problème considérable, parce que ça oblige aussi les banques traditionnelles qui n'ont pas su réformer leur système informatique à avoir des bases de coûts très élevées pour fonctionner, et donc des tarifications que certains qualifient de scandaleuses pour le grand public, quoi. Donc c'est un gros problème, mais qui est pas spécifique aux grandes banques, c'est spécifique aux grandes organisations en France. Et alors l'État, je vous raconte pas, mais créer des projets informatiques, c'est l'immense différence entre les deux mondes. Ensuite, il y a une question aussi de culture et d'éthique du travail, qui n'est pas du tout la même dans une entreprise qui a été créée sur base de la culture de la Silicon Valley, des SpaceX et des Amazon et des Airbnb et des Netflix de ce monde, où c'est que du dur, quoi. C'est que du muscle, c'est très intense, et t'es que mesuré sur ce qui sort vraiment, sur l'output que tu produis. Et dans une entreprise traditionnelle, dans une banque traditionnelle, moi je passais la moitié de mon temps à faire de la politique interne, à faire des PowerPoint pour que des résultats qui n'étaient pas terribles aient l'air bons, en tout cas dans les yeux de mon patron, pour essayer d'avoir un bonus, pour... C'est pas dû... Enfin, je poussais les problèmes aux autres équipes. Voilà, donc... chez Trade Republic, la culture d'entreprise est très très différente.
Ouais, c'est plus une culture de la démonstration qu'une culture du résultat.
Et basée sur l'impact, ouais.
Ce que je vois, alors, parce que forcément sur l'université de l'épargne, on a 7000, 8000 investisseurs qui sont abonnés à l'université de l'épargne, qui regardent nos vidéos, qui traînent sur la communauté, etc. Donc il y a des tonnes et des tonnes de questions sur, que ce soit sur les banques traditionnelles ou sur les trucs de fintech sur lesquels ils sont aussi. Très souvent, ils sont sur les deux d'ailleurs. Et ce que je vois du point de vue de l'investisseur français, c'est effectivement cette vélocité, cette concurrence extrêmement rude qu'il y a dans le milieu de la fintech, parce que on peut investir, c'est-à-dire faire exactement la même chose, typiquement acheter une action Apple, je peux le faire sur Trade Republic, sur XTB, sur eToro, je peux le faire aussi sur des banques traditionnelles, et vraiment la différence que ça va engager déjà en termes de rigidité de plateforme, ça va être vraiment l'impression du client, et que ce soit en termes de frais, mais c'est deux mondes complètement différents. Là, du côté des fintechs, on va vraiment avoir la course à l'échalote aux frais les plus bas possibles et avoir une plateforme extraordinairement dynamique qui s'améliore constamment. Je vois, il y a énormément de courtiers dont vous faites partie avec Trade Republic, qui font beaucoup d'améliorations tous les 2-3 mois. Et puis à côté, les banques où eux, ils sont encore en 2007, quoi. Et ils pratiquent des frais complètement démentiels. Oui. On peut avoir 3% de frais sur une opération tout à fait lambda qui va nécessiter même pas 1%, mais même pas 0,1%. Typiquement 1 euro sur Trade Republic en l'occurrence. C'est quand même complètement dingue. Comment ça se fait que ces banques traditionnelles ne se mettent pas à la page par rapport à cette concurrence énorme qui vient aujourd'hui de tous ces courtiers, tous ces néobanques, tous ces fintechs?
Je peux répondre. Voilà,
bien sûr,
c'est pas
bien sûr.
Comme
bien sûr.
Un de mes amis, c'est plus difficile de changer de banque que de changer de femme. C'est-à-dire que d'habitude, on est tellement habitué à sa banque, les carnets, tout ça. Il y a une espèce de routine. Donc on regarde pas les frais, on s'en fout un peu. Puis donc les Français n'ont jamais conçu la banque comme quelqu'un qui doit les aider à gérer leur épargne. Ils l'ont conçu comme quelqu'un où ils mettent des sous qui peuvent être accessibles facilement. Mais ils ne regardent pas les frais, il n'y a pas de service, il n'y a pas de relation personnelle qui se crée. Donc je crois que les banques vont disparaître, moi.
Vous le pensez aussi ?
Dans leur
acquisition. Je suis absolument convaincu que la banque, pour les particuliers telle qu'elle existe aujourd'hui, va disparaître complètement. Ça, j'en suis absolument convaincu. En tout cas, se transformer, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, ça va être une transformation. Et on voit d'ailleurs avec la croissance d'un Revolut, par exemple, sur la banque du quotidien, c'est incroyable. Je crois qu'ils approchent de 80 millions de clients, si je ne dis pas de bêtises.
Donc, et leur capitalisation boursière est monstrueuse.
Monstrueuse. Et l'enjeu, en fait, c'est peut-être celui du modèle très européen de ce qu'on a appelé en Europe la banque universelle. C'est-à-dire le banque assureur qui fait tout.
Ouais.
La banque qui a aussi bien des salles des marchés, des services aux entreprises, des financements spécialisés, du retail, des particuliers, une banque en ligne, du crédit. Voilà. Ces banques qui font tout, à mon sens, ont utilisé, je ne pense pas que ce soit volontaire de leur part, mais néanmoins c'est ce qui s'est passé, les particuliers comme variable d'ajustement du système, puisque c'est la seule variable du système qui n'a pas de voix.
Ouais.
C'est-à-dire le particulier, il n'a pas de voix. Il est représenté par personne, il est en situation d'infériorité. Donc si les banques ne se sont pas transformées plus vite malgré la concurrence qu'on leur fait, c'est parce que la banque est une industrie assez particulière, au sens où ce n'est pas uniquement une industrie basée sur un contrat, c'est une industrie qui est beaucoup basée sur la confiance. Et paradoxalement, on est arrivé à un moment, à la fin de la décennie 2010, où les institutions envers lesquelles les particuliers avaient confiance étaient en fait des institutions qui ne leur rendaient pas service aux particuliers. Et donc, quand on commence à s'exprimer publiquement en 2021, bien au début, moi je sais que ce que je dis est vrai et qu'on a raison de le dire, mais néanmoins, on n'a pas la crédibilité du départ. Et donc, c'est une uphill battle, comme on dit, c'est une charge... mes amis m'ont dit que j'avais passé 4 ans en campagne électorale pour Trade Republic, mais c'est vraiment... on charge, on monte la colline, et à chaque fois qu'on nous dit « vous n'êtes pas crédible », eh ben, on répond qu'on est crédible, on répond pourquoi, on explique. Et donc, le temps que la culture, en fait, hein, du rapport à l'argent et la culture de l'argent en France évolue, ça prend quoi, 10-15 ans, je pense, une génération, eh bien, les banques commencent à être sous pression. Et moi, je l'ai vécu très personnellement, parce que quand je vais chez Trade Republic en 2021, tous mes amis banquiers dans les grandes banques, ils trouvent ça, disons, fun, ce que je fais.
C'est presque un peu dégradant, finalement.
Ah, c'est très dégradant. C'est très dégradant. Mais les choix que j'ai faits dans ma carrière ont systématiquement été perçus sur le moment comme étant dégradants, ouais. Et je les regrette pas. Donc, c'est que j'ai pas dû...
J'ai connu ça aussi.
Et parce que je faisais des choix pour plus tard, en fait, à chaque fois. Mais... Et donc, 2022, c'est... Bon alors, ça fait quand faillite? Quand est-ce que tu reviens dans le système traditionnel? 2023, plus de son, plus d'image. 2024, on annonce nos vrais chiffres.
Ouais.
Donc là, j'ai eu un an de gros intérêts. On peut bosser ensemble. Trade Republic ne travaille avec personne. Voilà. Donc non. 2025, là, vous commencez à nous prendre des... Ça va aider. Et donc voilà. Donc là, j'en suis à un stade où j'ai des gens que je connais depuis 20 ans. Qui ne me parlent plus, voilà, qui répondent plus à mes textos.
Ah,
ou qui...
ah, oui,
parce qu'en fait, ils nous ont... c'est humain, j'imagine, mais c'était pas ils ne pouvaient pas accepter qu'on soit en train de les disrupter avec un truc qui sont les plans d'investissement programmés, où ils pensaient pas que ça allait disrupter quoi que ce soit. Et ils pensaient pas non plus que la jeunesse d'Europe allait pouvoir nous confier 150 milliards d'euros d'encours. Et donc, d'accepter que c'est ça qui s'est passé, c'est très difficile. Et aujourd'hui, on fait l'objet, évidemment, d'attaques assez lourdes, voilà, dans différents pays d'Europe, des concurrents, ce qui est une guerre assez classique entre entreprises, je dirais.
Ouais. Voilà, mais sauf là, qu'ils auront tendance, où... ils auront tendance à aller chercher l'aide de l'État pour vous gêner.
C'est là où nous avons été, je crois, assez malins. C'est que depuis le premier jour, Trade Republic, depuis le premier jour, dans tous les pays où on opère, nous sommes très proches des autorités. C'est extrêmement important pour nous.
Ah, évidemment.
La conformité réglementaire et juridique est extrêmement importante pour nous. Et parce que nous sommes des bons élèves, nous pouvons nous permettre de parfois pousser un peu les murs et challenger, y compris les autorités. Moi, j'ai en mémoire des échanges de lettres avec le régulateur belge il y a 4 ans, pendant 8 mois. Il fallait répondre à chaque fois. Enfin, c'était, voilà. Donc... j'ai eu l'occasion en 2022 d'aller auprès des autorités présenter ce qu'était un influenceur, par exemple. J'ai eu l'occasion d'intervenir aux rencontres annuelles de l'AMF en 2023, ce qui est un peu surprenant pour une start-up. Donc c'est voilà, on a été présent à Bruxelles, à Paris, à Berlin dès le début, et on s'est présenté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lançait un nouveau service, avant, on allait voir toutes les autorités, on les informait. Les fondateurs de Trade Republic sont venus à Paris. On est allé rencontrer le directeur général du Trésor, la vice-gouverneure de la Banque de France, la présidente de l'autorité des marchés financiers. Et ça, les acteurs déjà installés, que ce soit des grandes bourses monopolistiques ou des banques ou des assureurs, sociétés de gestion, eh bien, étaient étonnés parce qu'ils pensaient que nous, on n'avait pas de rapport avec les autorités.
Ouais.
Donc le lobbying, puisque c'est de ça qu'on parle.
Ouais.
A été un des pas seulement le lobbying, mais l'intérêt profond des fondateurs et de l'équipe dirigeante pour les questions réglementaires,
ouais.
A été absolument essentiel à la fois dans la construction de Trade Republic, parce qu'une plateforme comme Trade Republic s'est construite sur la limite à chaque fois pour pouvoir rendre davantage aux gens, pour pouvoir fournir les services qu'on fournit. Ça s'est construit à chaque fois sur la limite. Et c'est une limite qui est à la fois technologique, mais qui est aussi réglementaire.
Ouais.
Donc il y a un niveau de compréhension de la réglementation européenne chez les fondateurs de Trade Republic qui est épais.
Ouais.
Et moi-même, c'est des sujets qui m'intéressent énormément et je fais de la réglementation financière depuis 15 ans.
Ouais.
Donc c'est un enjeu déterminant. Et c'est là où, contrairement à d'autres néobanques allemandes qui ont eu des problèmes réglementaires, on a réussi jusqu'à présent, je touche du bois, à évoluer d'une manière... sereine, voilà.
Ouais.
Et même s'il y a eu des décisions réglementaires pilotées par nos concurrents qui nous ont été néfastes, on a pu les anticiper, les faire retarder un peu. On a, voilà, donc on a réussi à avoir ce comportement d'acteur installé.
Ouais.
Et le prix à payer, c'est qu'on travaillait vraiment beaucoup. Voilà, parce que faut imaginer que la dimension lobbying de mon rôle chez Trade Republic, c'était un hobby en théorie, quoi. Voilà, en plus.
Ouais.
Donc voilà.
Donc, en fait, vos concurrents traditionnels pensaient que, en quelque sorte, vous auriez trop la flemme de faire toutes ces démarches pour avoir toute cette possibilité, où vous seriez
pas les compétences, ouais.
Ouais, pas les compétences, ouais.
Pas les compétences. Et puis il y a aussi un réflexe que vous devez connaître, Charles, qui est le réflexe d'entre-soi, quoi, qui se sentent en partie protégés, entre guillemets. Moi, j'ai assisté à des choses à Paris, voilà, où clairement il y avait un sentiment d'impunité et de protection assez clair dans le propos, quoi. Et donc c'est cette arrogance là, quoi, qui nous a permis de passer.
C'est l'arrogance aussi de dire de toute façon ils sont moins intelligents que nous, ils n'ont pas fait les meilleures études ou ils n'ont pas fait d'aussi bonnes études, donc automatiquement on doit gagner parce qu'on a fait des meilleures études, quoi. Il y a une espèce de, comme vous le dites très bien, d'arrogance,
c'est statutaire.
Parce que, écoutez, comme je l'ai entendu un jour, il y avait deux ou trois inspecteurs des finances qui s'engueulaient, et puis il y en a un qui a dit, de toute façon, je suis sorti premier, donc c'est moi qui ai raison, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est une façon originale de voir les choses, quoi. Il y a celui qui était sorti premier de l'inspection des finances, a expliqué aux deux autres qui est sorti, je sais pas quel de rentre, qui quand même, c'était lui qui était le chef, quoi. C'était, dans un monde administratif, je veux bien, ce que dit ce bon, le médecin là, le druide, comment il s'appelle,
Raoult,
il dit, dans le monde, dans la réalité, il y a les sociétés qui fonctionnent sur l'obéissance, et les sociétés qui fonctionnent sur la connaissance. Et il dit, les sociétés qui fonctionnent sur l'obéissance veulent toujours bouffer celles qui fonctionnent sur la connaissance, parce que c'est plus facile de donner des ordres qu'inventer et de construire. Et moi, je trouve que c'est très rigolo, parce que dans le fond, vous êtes une société de compétences, et qui essaye de détruire une société d'obéissance. Et c'est bien, ça.
Mais je crois que les gens sont d'accord avec nous dans leur majorité.
En général, je ne connais pas de gens qui sont contents de sa banque.
Ouais.
Je ne connais pas.
C'est le niveau de... Enfin bref, j'avais fait tester par des instituts de sondage, et depuis 4 ans, c'est à chaque fois catastrophique, quoi.
Ouais.
Il y a les 2/3 des Français qui ne comprennent pas les frais bancaires qu'ils payent.
Ouais.
80% des Français qui ne sont pas particulièrement fans de leur banque.
Ouais. Je pense qu'il y a aussi une question de génération, parce que je vois bien dans ma génération, la plupart des gens ont une banque traditionnelle. En général, d'ailleurs, c'est la même que celle de leurs parents, parce que c'est là qu'on leur a créé un compte quand ils étaient mineurs, etc. Donc, ils conservent le compte par principe. Mais enfin, ils mettent pas grand chose dessus, et puis après, ils ouvrent un compte sur Revolut ou ailleurs, et puis voilà, quoi.
C'est ceux qui ont compris quelque chose, ouais. Mais sinon, quand vous avez, il y a 7-8 milliards d'euros dans le livret A.
Plus que ça, je sais plus combien.
C'est une histoire de fou, quoi, que les gens mettent ça dans le livret A, ils pourraient faire mieux de le coller sur Revolut, et ça marcherait mieux, quoi.
Alors, il y a 570 milliards d'euros de dépôts à vue des particuliers en France.
Ouais, rien que ça.
À 0%.
Ouais.
Ça, c'est les dépôts à vue sur les comptes courants. Et ça rapporte 2% par an à peu près aux banques actuellement. Donc, ça fait un manque à gagner
colossal,
considérable, pour les particuliers chaque année.
Oui,
au minimum. Donc ça, c'est un premier problème.
J'ai fait
un calcul assez simple. Les frais bancaires en moyenne en France par personne, c'est 200 euros. Voilà. Mm-hmm. C'est l'UFC que choisir, c'est les études, Panora Bank, etc. C'est 192 euros l'an dernier,
ouais.
Autour de 200 euros en hausse systématique. J'ai fait un calcul simple. Quelqu'un qui a le salaire médian en France, qui est client de Trade Republic, entre ce qu'il va recevoir en intérêt sur son compte courant, ce qu'il va recevoir en ce qu'on appelle nous le save back, c'est-à-dire de l'épargne offerte sur tes dépenses, 1%, rien qu'avec ça, je ne parle même pas des différences de frais de courtage, etc., il passe d'une banque qui lui coûte 200 euros par an à une banque qui lui rapporte 200 euros par an. Moi, ma conviction personnelle et industrielle, c'est qu'on est passé de la banque qui coûte à la banque gratuite, et que demain, par nécessité absolue de l'appauvrissement de l'Europe, on va passer à une banque qui me rapporte.
Ouais.
Et enfin, je suis convaincu aussi que Trade Republic, par son business model, Voilà, je peux pas entrer dans tous les détails publiquement, mais je serais ravi d'en parler ensuite. Mmh. Très public par son business model, impacte d'une certaine manière le modèle de la banque universelle en France. Et donc, peut-être que demain, il y aura des banques qui seront plutôt spécialisées dans l'infrastructure, la tenue d'une balance sheet, le crédit par exemple, et d'autres banques qui seront spécialisées sur le financement des entreprises, et peut-être d'autres banques qui seront spécialisées sur accompagner les particuliers.
Ouais.
Et donc par exemple, Trade Republic a des clients qui ont 150 milliards d'euros chez Trade Republic en espèces ou en actions ou en ETF ou en crypto. Eh bien, ça n'est pas sur la balance sheet de Trade Republic. Ouais. Pour pas qu'on soit limité par les ratios difficiles. Donc on collabore avec d'autres institutions financières, les plus grosses du monde, mais on a réussi ça. Ce qui nous permet évidemment, on a je crois quelque chose comme 8000% de Core Tier 1 actuellement chez Trade Republic ou quelque chose comme ça.
D'accord.
Donc c'est aussi...
Et vous faites pas de crédit ?
Pas encore.
Pas encore. Vous le ferez peut-être un jour, mais ce que je veux dire par là, dès le moment où vous faites pas de crédit, à quoi ça sert les fonds les réserves obligatoires, ça sert à rien.
Exactement.
Il n'y a pas de raison de mettre un capital monstrueux là-dedans pour alors que vous avez déjà trop de cash pour ce que vous voulez en foutre, quoi. Mmh. Donc c'est intéressant parce que ce à quoi on assiste, c'est dans le fond à un recassage du métier de banquier, parce que ce qui manque beaucoup à la France aujourd'hui, c'est je crois qu'à la fin des années 90, ce qui s'était passé, c'est que l'inspection des finances, encore une fois, avait décidé que toutes les banques en France qui avaient des mutuelles, etc., qui avaient de l'argent en province, devaient le rapatrier pour que ça soit géré de façon centralisée à Paris. Je sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai. Et donc à ce moment-là, ça a séché complètement la province qui d'un seul coup s'est retrouvée sans aucun... Donc il y a une des besoins qu'on a en France, c'est de recréer des banques locales. Et ça vient. Il faudra un jour recréer des banques locales qui financeront le charcutier localement. Et ça me paraît évident. Donc cette espèce de prise de contrôle de ces monstres bancaires qui ont fait refluer tout l'argent à Paris et qui ont asséché tout le monde... c'est exactement ce dont la France n'avait pas besoin, quoi.
Mais la liste des décisions dont la France n'avait pas besoin,
oula,
serait intéressante.
On va plutôt faire la liste inverse parce que ce sera plus rapide, je crois.
Vous remarquerez que toutes ces décisions, c'est toujours d'appeler le pouvoir à Paris.
Souvent, oui.
C'est pour ainsi dire jamais de le renvoyer vers la province.
Non.
C'est donc, on retrouve toujours...
C'est l'immense échec de la décentralisation depuis le référendum raté du général de Gaulle. Hein, oui, mais après les banques, je veux quand même faire deux précisions qui me tiennent à cœur. La première, c'est que c'est pas de la faute des banquiers en agence.
Non.
Les banquiers en agence, moi c'était mes stages d'été pendant des années,
ouais.
Sont des gens qui font un métier d'accompagnement et qui le font de leur mieux.
Bien sûr.
Avec les outils que la banque met à leur disposition, qui sont souvent mauvais. Mais je veux vraiment le dire parce que c'est des gens qui beaucoup font un métier d'accompagnement très local, très et qui font souvent avec beaucoup d'humanité. La deuxième remarque, c'est que il y a eu une dégradation extrêmement forte des conditions économiques pour les gens, donc ce qu'on appelle la microéconomie, à partir de la fin des années 90, début des années 2000 en France. Ça a été complètement masqué pendant 20 ans par une forme de débat politique et médiatique qui ne parlait pas des vrais sujets du tout, c'est parler d'autre chose, de quelque chose qui n'existait pas, mais il ne parlait pas de la réalité. Et donc, d'un coup, entre guillemets, autour de 2020, les gens se sont réveillés en réalisant...
Et Gilets jaunes en 2018, typiquement.
En réalisant que la situation des particuliers s'était énormément dégradée, en fait. Et donc, on ne peut pas en vouloir, entre guillemets, aux gens, d'abord, de ne pas s'être éduqués financièrement jusqu'à récemment parce que ce n'était pas vraiment un besoin. Quand vous avez une France qui protège à mort un État-providence dont on vous dit qu'il fonctionne alors qu'il ne marche plus, et dont on vous dit que vous n'avez qu'à travailler, payer vos impôts pour avoir une bonne retraite, transmettre à vos enfants, on vous dit d'ouvrir une assurance vie, que c'est super, on vous dit que le système de retraite français, on nous l'envie partout dans le monde. Voilà, donc on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas s'être formés. En revanche, là, actuellement... Il faut absolument que le système financier français s'intéresse un peu plus aux particuliers et à ce qu'on peut faire pour les foyers, quoi, parce que c'est des acteurs économiques essentiels qui ont été les variables d'ajustement. Voilà, ils ont été pressés, quoi.
C'est très intéressant. Vous allez en Angleterre, où j'ai vécu, vous allez aux États-Unis, où j'ai vécu aussi, vous allez à Hong Kong, où j'ai vécu. Ben, Vous allez dans votre banque, il y a littéralement des petits manuels qui sont faits pour apprendre comment vous pouvez acheter les fonds, comment gérer, comment bâtir votre épargne, etc. Mais ça peut faire 60 ou 80 pages. Merrill Lynch donne à tous ses clients un truc, comment vous devriez gérer votre épargne. En France, il n'y a pas une banque qui fait ça. Juste un menu quoi, de ce qui est faisable et à quoi, quels sont les résultats que vous pouvez attendre. Rien. Rien en France, ils vous disent, ils donnent rien. Moi, j'ai été Crédit du Nord, puis je me suis fait virer pour des raisons différentes. Mais ils m'ont interviewé un jour pour savoir quel était mon profil de risque. Alors, je leur ai dit, mais dites-moi alors quel est la part, le placement le moins risqué. Ils m'ont dit les obligations de l'État français. Bon, j'ai dit, ça commence bien. Mais donc, ils fonctionnent en fonction de critères de risque qui viennent des critères de Bâle, là. Et donc, ils disent, si c'est pas volatile, c'est pas risqué. Mais c'est complètement idiot. Vous pouvez avoir un truc qui n'est pas volatile du tout et qui tombe à zéro d'un seul coup. Quoi. Et puis vous pouvez avoir un truc qui est très volatile et qui monte beaucoup sur le long terme. Quoi.
Je suis très opposé, moi, mais je l'ai rarement dit ça publiquement parce que c'est pas conforme.
Oui.
Je suis très opposé à cette notion de profil de risque.
Mmh. C'est complètement idiot.
Je veux dire, c'est...
Je pense que c'est pas idiot, mais c'est assez mal mesuré, généralement.
En fait... Je crois que c'est quelque chose qui appartient au passé massivement, à une époque où on pouvait avoir le luxe de ne pas prendre de risque. C'est un luxe qu'on n'a plus du tout. Et donc le profil de risque, pour moi, sert quand même beaucoup à justifier des placements de produits qui soit ne marchent pas, soit sont très chers en frais, mais qui servent l'État ou les grandes banques, les grands assureurs. Les deux exemples que je donne toujours sont les mêmes. Vous avez le livret A d'un côté qui n'est utile qu'à l'État et c'est une catastrophe culturelle, c'est une catastrophe sociétale le livret A, même si je comprends bien que ce soit, perçu comme ça par certaines personnes, néanmoins c'est une catastrophe culturelle et sociétale et ça ne sert que l'État, ça ne sert pas les particuliers. Et de l'autre côté, vous avez le fonds en euros de l'assurance vie,
ouais,
qui sert les assureurs pour les frais qu'ils prennent pour pas faire grand chose. Et l'État, qui a mis 500 milliards, je crois, de dettes françaises dans les fonds en euros des contrats d'assurance vie, et qui donc se retrouve dans une situation où la puissance publique est tenue par les par la barbichette, par les assureurs, littéralement en fait. Ce qui explique que quand l'impôt sur les plus-values augmente en France début 2026 de manière complètement scandaleuse, c'est le cas partout, sauf sur l'assurance vie. Donc, alors même qu'on sait que l'assurance vie ne permet pas aux gens de s'enrichir, c'est un super outil de transmission, mais c'est pas un outil de capitalisation, l'assurance vie.
Pas du tout, mais je me permets de faire une remarque ici. Si vous voulez, un système capitaliste fonctionne si vous avez des petits épargnants d'un côté, quelqu'un qui mutualise au milieu et qui transmet cette épargne mutualisée à des gens qui prennent des risques. Et ça fonctionne. Mais si vous avez de l'épargne, les gens au milieu qui capturent l'argent pour le profit de l'État et qui sert à faire des transferts sociaux, à ce moment, l'économie s'arrête. Si vous le transférez à des entrepreneurs, ça marche. Si vous le transférez à l'État, la mutualisation des petits épargnants-là, l'État, il ne crée rien du tout.
C'est à mon sens, c'est ce qui est en train d'arriver maintenant.
Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de ça et aller le faire soi-même.
Actuellement, l'économie française est gentiment, mais sûrement, en train de s'arrêter. Quoi. Enfin, tu regardes tous les indicateurs, l'économie française est en train de elle est comme figée dans un bloc de glace. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, comme si... Quand tu te prends du sablon de dynamisme.
Complètement. Donc, en effet, on a...
Mais les gens le sentent, ça. Les gens le sentent.
Et surtout, ils le voient.
Ils n'ont pas fait d'études, peut-être, mais ils le sentent. Hein.
S'ils ont fait des études, ils sont dans des positions où ils ne le voient pas, alors c'est triste. Mais vous n'avez qu'à aller dans n'importe quel village, en Gascogne, n'importe où, dans le Gers, vous allez, tous les villages sont vides, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui bouge. Vous allez dans une petite ville comme Auch, que j'ai connue très vivante il y a 40 ans, il ne se passe plus rien. Donc, il y a toute une partie de la France qui est en train de mourir.
Dévitaliser, oui.
Complètement. Vous avez écrit le livre « Prenez votre argent en main » en 2024.
Qui répond bien à cette demande, du coup.
Qui répond bien à cette demande.
Ouais, c'est...
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça avait été publié à peu près au même moment que « Cessez de vous faire avoir ».
Oui.
Il y avait... deux semaines d'intervalle, voilà. Hasard total.
Il y avait Mounir aussi de Finari qui sortait son bouquin.
Deux semaines d'intervalle, on était tous les trois dans les...
D'un seul coup, il y a eu trois énormes bouquins.
J'étais content.
Très importants et les trois sont très bien vendus,
d'ailleurs. Les trois succès, ouais. J'étais hyper content.
Voilà, donc c'était vraiment une change, de mise à jour comme ça de l'éducation financière en France. Quels effets tu as vu par rapport à ce que tu as écrit, par rapport à ce livre, par rapport à comment il a été lu, comment il a été perçu, est-ce que ça a eu un impact énorme derrière, est-ce que ça a lancé plein de gens dans l'investissement, justement, dans la gestion de leurs propres finances?
L'intérêt d'un livre, c'est que ça t'oblige à poser une pensée et à la figer.
Donc, et ça vous soulage.
Oui.
Quand vous êtes en colère, quand vous écrivez le bouquin, ouais, ça vous soulage.
Là, je le vis en ce moment sur. J'écris actuellement sur la question du pouvoir d'achat.
Oui.
Et donc, comme je creuse le sujet, évidemment, je découvre des choses que je ne connaissais pas et qui me choquent pour beaucoup.
Voilà, donc,
c'est vrai que j'écris
pour me soulager parce que ça m'emmerde.
Et là, d'abord, c'était un rêve de gosse d'écrire un livre. Voilà, les livres ont joué un rôle très important dans ma vie et j'ai eu l'occasion de faire Hippocagne et Cagne. Et donc, c'était très important pour moi. Et ça m'a obligé à poser une pensée et des concepts et donc à ensuite les assumer. C'est un livre qui s'est vendu à 45 000 exemplaires, je crois, en version brochée. Et là, qui est sorti grâce au fait qu'il y a beaucoup de versions brochées qui ont été achetées. Et il est sorti en poche, ce qui me rend encore plus heureux puisqu'il est beaucoup moins cher pour les gens, donc plus accessible. Et le poche, là, depuis, il se vend incroyable. Je crois qu'on en vend entre 300 et 500 par semaine depuis février et c'est stable dans le temps. Donc, le livre, le gros intérêt, c'est que moi, il m'a permis de casser une barrière que je n'arrivais pas à casser, qui était la barrière de la télé et de la radio. Donc, j'ai une. Ce que je fais depuis 5 ans obéit à un plan d'action. C'est pas. Ça s'est pas fait comme ça. Ça obéit à un plan d'action qui est fondé sur l'observation que la fabrique de l'opinion publique en France était autrefois uniquement verticale. Paris, province, quelques grandes chaînes de télé, quelques hommes politiques, quelques experts, toujours les mêmes, qui fabriquaient l'opinion publique. Et dans une société très verticalisée avec l'expert. Et aujourd'hui, on est une société et on s'en réjouit, je crois, tous les deux, qui est aussi horizontale. Ouais. Et donc c'est évidemment très réjouissant parce que là on s'aperçoit que non, les Français ne sont pas des cons, oui, ils pensent plein de trucs vachement bien, ils sont en fait très souvent d'accord avec nous et ils passent à l'action, voilà. Donc il me manquait, j'avais les réseaux sociaux, j'avais la presse écrite qu'on avait voilà bien travaillé, qui répondait, qui comprenait le débat qu'on voulait porter en France. On n'arrivait absolument pas à passer le cap de la télé et de la radio à Paris, qui est un milieu très particulier. Quasiment intégralement politisé sur une idéologie anticapitaliste avec des a priori sur les questions d'argent incroyables. J'ai des anecdotes à vous raconter d'articles censurés, d'émissions déprogrammées, enfin bref, c'est incroyable. Et une des manières d'être invité à la télé et sur les grandes radios, c'est d'avoir un bouquin. Et donc j'ai écrit un livre aussi pour pouvoir ça, obtenir ça. Et j'y suis arrivé grâce au bouquin. Clairement. Donc, le livre a été un outil dans la diffusion la plus massive possible d'idées d'éducation financière basées sur la réalité, qui est ce que j'essaye de faire depuis des années. Et au tout début, 2021-2022, je le faisais avant tout pour développer Trade Republic, parce que je croyais en ce produit, je croyais en cette banque, je croyais en cette plateforme. J'y crois toujours très fort, sinon je ne serais pas toujours à leur côté. Mais aujourd'hui, ma situation personnelle a changé, puisque je suis actionnaire de Trade Republic. Ouais. J'ai donc un peu plus de liberté, j'ai de capacité à me projeter dans l'avenir aussi. Et quand j'ai vu ce que ça faisait de faire de l'éducation financière sur Internet, je me suis dit, continue en fait. Ouais. Tout simplement, quoi. C'est beaucoup à cause des messages des gens que j'ai reçus aussi.
Ce que vous dites est très important, c'est qu'il y a... Il y a quelque chose aussi qui est nécessaire, je crois, à une vie heureuse, ça paraît un peu sot, mais c'est que vous transmettiez ce que vous avez appris. Le besoin de transmettre, je crois que c'est un besoin très très humain. Et ce blocage qu'ils avaient organisé empêchait cette transmission pour des gens dont c'est la vocation, quoi, qu'ils ont beaucoup appris, ils aimeraient bien maintenant enseigner, on ne pouvait pas le faire. Mais maintenant, avec tous les nouveaux systèmes, on peut le faire. Donc, je crois quelque part, le niveau de bonheur dans la société doit augmenter, aussi curieux que ça paraisse, parce que la parole est plus libre.
Complètement. C'est ma conviction aussi.
Je suis persuadé que le simple fait qu'on puisse entendre des voix comme la vôtre, la mienne, mais ben, si vous voulez, ben, moi je suis bien meilleure humeur. Parce qu'autrefois, je souffrais d'entendre toutes ces conneries à la télévision et de pas pouvoir répondre. Tandis que là, même s'il y a que peu de gens qui m'écoutent, le simple fait que je réponde fait que je suis de bon poil.
Ah, moi, c'est l'une des choses. C'est ce qui se passe depuis 2 ans dans ma vie et l'une des choses les plus excitantes qui me soit jamais arrivée, voilà. qui me motive, qui me rend heureux, qui m'apporte un sentiment d'accomplissement très profond, voilà. Et de pouvoir répondre.
Ça fait du bien. À leur connerie, si
avant, vous j'écoutais énormément la radio, moi, et avant, j'écoutais. Et plusieurs fois, j'ai quand même balancé mon portable contre le mur, tu vois. Vraiment, quoi. C'est entendre des gens à une heure de grande écoute raconter littéralement n'importe quoi aux gens. Enfin, bref, moi, ça m'énerve. Et là, maintenant, quand il se passe ça, je note. Ça s'est passé à telle heure sur telle antenne. Je le mets dans mes to-do list. Et après, je retrouve l'extrait et je commente. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à parler de trucs sur les réseaux sociaux dont les télés et les radios ne voulaient pas, et à faire des millions de vues, et ensuite à envoyer les extraits réseaux sociaux aux gens de la télé et de la radio qui n'avaient pas voulu, soi-disant, ça n'intéressait pas les gens, et qui ne voulaient pas me recevoir. Et ben, bizarrement, après, j'ai été beaucoup reçu.
Ouais.
Voilà. Étrange. Donc j'ai joué beaucoup, souvent, moi, les réseaux et la télé.
Ils ont eux-mêmes l'objet de pression des réseaux sociaux, et ils vous disent, mais pourquoi vous ne recevez pas ces zigs? Donc, il y a une pression qui vient de la base, parce que ben on aimerait avoir l'opinion de quelqu'un qui est pas d'accord avec ce qui vient de parler avant.
Ouais.
Donc c'est aussi, ça vient aussi du public qui, c'est plus comme vous l'aviez décrit d'un sens d'autrefois, de Paris vers la province, de celui qui sait à celui qui sait pas. Maintenant ça remonte dans l'autre sens.
Ouais.
Et ça fait du bien.
C'est une route à deux sens là.
Ouais.
Et on s'aperçoit que effectivement la perception qu'on peut avoir de ce que pensent les Françaises et les Français. Quand on regarde la télé et qu'on nous parle à la télé ou à la radio des Françaises et des Français, et dans la réalité,
ça
ensuite,
quand
ça n'a rien à voir.
Ouais.
Rien à voir.
Et ça, c'est. Je veux dire, je ne suis pas du tout étonné que la démocratie française soit pour le moins fragilisée. Parce que ses ressorts fondamentaux actuellement fonctionnent mal.
Mais, non, mais ce qui se passe, c'est que vous avez la démocratie parlementaire, appelons-la par son nom, qui a été inventée au 18e parce qu'il fallait 3 semaines parler de Paris à Toulouse. Maintenant, si vous, on a élu des représentants, mais maintenant il y a une classe professionnelle de représentants qui résonne comme une classe et qui sont toujours élus. Quel que soit, si vous voulez, entre Fabius et Juppé, il faut avoir un œil très très malin pour voir lequel est lequel. Donc il y a une classe professionnelle qui a pris le contrôle du système politique. Ce qui fait que c'est plus une démocratie et qu'ils ne veulent plus entendre les gens du tout parce qu'ils les emmerdent. Donc moi, c'est ça qui me fascine à l'heure actuelle, c'est qu'on assiste à la fin de la démocratie représentative qui ne fonctionne plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on assiste à la fin de la démocratie. Ça veut dire qu'il va falloir à une autre forme de démocratie où les gens voteront directement. Les gens disent...
Je tourne autour de ce concept depuis 15 ans, moi.
Oui.
C'est ce que j'appelle la démocratie directe permanente.
Mais voilà, on y va. On votera sur tout. C'est ce que font les Suisses, ils ne se portent pas plus loin.
On aimerait bien,
Vous voyez les jeunes.
Mais les Suisses, il y a quand même des siècles de construction culturelle de ça.
Ben oui, mais c'est pas tellement difficile, parce que les Suisses, ils votent de temps en temps, ils votent des conneries, puis le référendum d'après, ils la corrigent. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas de faire des erreurs, c'est d'avoir un pouvoir de la corriger. Or, cette classe, elle ne se corrige pas.
C'est plus facile à l'échelle locale.
Mais c'est normal, parce qu'elle ne fait pas d'erreur.
Elle ne fait pas d'erreur, et elle ne fait pas d'erreur, puisque tous les thermomètres qui permettent de mesurer les erreurs, ils sont tous cassés, bizarrement.
Ils ont tous cassés.
Il n'y a plus aucun thermomètre qui fonctionne, là. Soit ils sont cassés...
Y compris la liberté de la presse, qui a complètement disparu. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une capture d'un système démocratique, avec les cours de justice européennes qui permettent de... Donc, on a... Et qui n'a plus rien de démocratique. C'est-à-dire, on n'est plus en démocratie.
Ben moi, je crois que l'éducation... populaire, entre autres par les réseaux sociaux, la communication par les réseaux sociaux permet de peut-être recréer un lien à un moment donné.
Ben c'est ce que moi j'espère, c'est que la communication financière leur permet, parce qu'ils étaient tous tombés en dépendance, parce que les subventions venaient de l'État. Il y a 57% des Français qui reçoivent des subventions de l'État. Donc c'est embêtant d'avoir une démocratie où il y a 57% des gens qui sont achetés par avec l'argent des 43, quoi. Mais à un moment ou à un autre, quand ils toucheront plus rien, parce qu'il n'y aura plus rien... il faudra qu'ils s'occupent eux-mêmes de leur argent. Donc la seule façon, c'est d'enlever le pouvoir de décision du sommet et de le ramener le plus bas possible vers le bas.
Ça là-dessus, je pense aussi que pour les générations d'avant, investir était vu peut-être comme un luxe. C'est-à-dire une façon de s'enrichir un peu plus qu'on ne l'était. Et pour ma génération, ça devient une nécessité absolue.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas, même avec un salaire correct, faire entièrement confiance à l'État pour gérer sa retraite et se dire « bah je repartirai à 65 ans avec une bonne retraite et je n'aurai pas de problème. Et je pourrai peut-être subvenir encore aux besoins de mes enfants s'ils en ont besoin, etc. » Aujourd'hui, c'est une nécessité absolue.
Et donc, si vous n'avez pas d'épargne maintenant... je crois, si vous avez 35-40 ans, vous allez avoir une fin de vie difficile.
Ah oui, c'est certain.
Enfin, alors... non, vous n'aurez pas une fin de vie difficile, vous continuerez à vous poiler, mais vous n'aurez pas de retraite.
Ouais.
Vous continuerez à travailler, parce que l'idée de foutre à la retraite des gens qui sont complètement compétents en 65 ans, comme on l'a fait avec je ne sais pas combien de professeurs de médecine ou de grands scientifiques français, comme ça ils prennent leur clic et leur claque, ils ne sont pas fermement formés, ils vont enseigner aux États-Unis. Ça aussi, c'est une connerie, cette histoire de la retraite, où tout le monde doit prendre la retraite au même âge. Ça m'a toujours paru d'une bêtise.
Ça n'a pas beaucoup de sens. Faisons un petit exercice.
En France,
la
jeunesse est sacrifiée et la vieillesse est gaspillée.
Oui, c'est exactement
ça. Et c'est très très dommage.
Oui, c'est très très dommage.
C'est très dommage.
Faisons un petit exercice d'éducation financière, justement. Si tu devais répondre en une minute à la question suivante, pourquoi investir? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu dirais pour convaincre quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui se dit « Ah non, c'est trop risqué » ou « Alors j'y connais rien » ou... Qui a plein de raisons de se dire je suis pas fait pour ça finalement.
Ce que je dis d'habitude, c'est que l'économie va mal en France et que les conditions économiques des gens vont se dégrader et que ce qu'on leur raconte à la télé et à la radio c'est pas la réalité. Qu'ils le ressentent probablement. Et que ce qu'ils ressentent, effectivement, c'est une forme de bon sens populaire qui leur fait dire attention, alarme, alerte rouge. Bon. Mais, et c'est bien normal, ils ne savent pas quoi faire. Puisque 80% des Français savent qu'il faut faire quelque chose pour leur retraite. Mais il n'y a que la moitié, 40%, qui ont commencé à faire quelque chose. C'est déjà bien, mais ça veut dire qu'on a 40% des Français qui sont actuellement en stress. Parce que quand on sait qu'on doit faire un truc... Et qu'on ne le fait pas.
Ça va se mordre. C'était les devoirs du dimanche soir qu'on ne faisait pas. Quand lundi matin, on arrive à l'école, on n'était pas prêts. Hein.
Et donc, je dis ça. Et je dis ensuite, en revanche, il est quasi certain que vous pensiez qu'investir, c'est risqué et pas pour vous. C'est normal. Ça fait 50 ans que l'industrie financière vous fait croire ça pour vous vendre des produits financiers très chers en frais, mais qui ne marchent pas. Et là, je prends souvent l'exemple des fonds gérés activement par des êtres humains, qui pour 90% d'entre eux font moins bien qu'un indice boursier, puisque c'est une étude officielle de Standard & Poor's qui me permet de leur montrer ça. Je leur dis, sais-tu que 100 euros par mois pendant toute ta carrière, en bourse, diversifié le plus large possible, tu as en moyenne depuis 150 ans 7% par an, et que si tu mets 100 euros par mois, bah, pendant toute ta carrière, à la fin, tu as quelque chose comme 250 000 euros. C'est à peu près ce dont tu auras besoin pour ta retraite, en plus du système par répartition, pour avoir une bonne retraite. Donc l'exemple que je prends toujours, c'est 5% de ce que tu gagnes à 5% de rendement annuel pendant toute ta carrière. Ça te permet de compenser la différence entre ta retraite et ton dernier salaire. C'est la règle des 5%. Et je leur dis... Et si vous, avant, je devais expliquer théoriquement ce que ça faisait aux gens de faire ça. Maintenant, je peux leur dire, et il y a 10 millions d'Européennes et d'Européens qui viennent de commencer à le faire. Et ils continuent tous à le faire. Donc, c'est que ça doit fonctionner. Et voilà. Donc, et après, si besoin, je les achève avec une citation de Warren Buffett. Mais j'explique ça par, le temps, c'est de l'argent. Et donc, si vous commencez pas tout de suite, vous allez avoir un problème dans 20 ans dont personne ne vous a parlé, c'est pas de votre faute et c'est normal que vous croyiez que c'est pas possible.
Ouais.
Et donc j'essaye d'accueillir moi les pensées limitantes beaucoup, j'essaye de faire du judo avec des idées fausses mais qui étaient très crédibles. C'est pour les gens, l'assurance vie, comme toute la journée ils entendent c'est le placement préféré des Français, ils se disent que c'est préféré donc c'est bien.
Oui.
Personne leur dit c'est le seul placement qui est vendu aux Français en fait, toute la journée. Et effectivement,
on leur a donné des avantages fiscaux, et j'ai remarqué quelque chose avec la bourgeoisie française en général, c'est qu'ils ne peuvent pas résister à un mauvais placement s'il y a un avantage fiscal.
Absolument, c'est un truc de
dans toute l'Europe. C'est dans toute l'Europe. Et à chaque fois, quasiment, vous avez une institution qui prend la moitié de l'avantage fiscal en frais.
Oui.
Ouais. Quasiment partout. Et alors, en Italie, les plans épargne retraite en Italie, c'est un scandale. Enfin, vraiment. Et c'est partout.
Mais ce qu'il y a de très curieux.
À chaque fois,
ce que je dis aux gens, c'est s'il y a un avantage fiscal, c'est un mauvais investissement parce que s'il donne un avantage fiscal, c'est qu'il faut qu'il y ait un avantage. Et donc, c'est que c'est un mauvais investissement parce que s'il n'y avait pas cet avantage, vous ne le feriez pas.
Ouais.
Donc, si on vous donne un avantage fiscal, vous partez en courant.
Et d'ailleurs, Trade Republic a réussi à démocratiser l'investissement à plus d'1 million de Français avec le compte-titres.
Ouais.
Incroyable.
Ouais.
J'aurais jamais cru que ce serait
possible. Parce que moi,
j'aurais cru qu'on pouvait faire investir 1 million de personnes en France avec un compte-titres.
Pour moi, c'est le
meilleur véhicule.
Sachant que les 3 premières années, il était allemand, le compte-titres.
En plus.
Et je n'aurais jamais cru, parce que ça allait contre tout ce que je croyais dans ma vie d'avant professionnelle, en fait.
Tout ce que vous avez enseigné, qui n'est pas vrai.
Ben oui. Mais il m'a fallu un an, quoi, en 2021, pour faire cette acculturation.
Et ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, parce que vous citez tout souvent 2021, c'était un peu l'année Covid et l'année d'après. J'ai l'impression que ça fait une espèce d'arrêt sur image sur les Français. Ils ont arrêté de courir dans la course de rats ou je ne sais pas quoi. Et ils se font commencer à poser des questions, parce qu'il y a toute une série de comportements qui ont changé après le Covid. Avoir été enfermés avec leur femme pendant, je sais pas, 36.
Ou leur belle-mère.
Ils se sont dit, sauf qu'il peut, les gars, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible, quoi.
C'est ce que j'ai appelé la crise des 3 C.
Oui.
Covid, crypto, crise des retraites.
Oui.
Vous avez un moment où, au même moment, vous avez du temps, Covid, tout le monde sur Internet toute la journée, et un choc économique colossal quand même. Hein. Donc la peur, beaucoup pour beaucoup de gens, et la peur est malgré tout un facteur de mouvement assez important. Bon. Donc Covid. Ensuite, crypto. Il y a toute une génération qui a découvert qu'on pouvait mettre de l'argent quelque part et espérer en ressortir plus après. Voilà. Est-ce que c'était bien ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon.
Pour certains, oui, pour beaucoup, non.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des abus parce que c'était nouveau aussi?
Oui, énormément.
Est-ce qu'il y a eu des. Enfin bref. Mais néanmoins, je ne cracherai jamais sur la crypto parce que ça a éveillé toute une génération d'Européens.
Et ça a montré aux Français que l'argent n'était pas automatiquement un pouvoir régalien. C'est-à-dire que vous n'étiez pas obligé de passer par l'argent.
Complètement, oui.
Donc, d'un seul coup, ils se sont dit, ah bon, il peut y avoir une monnaie qui est indépendante d'un État. Donc, ça leur a un peu ouvert l'esprit, quoi.
Et en même temps, on était en plein débat de la réforme des retraites, à ce moment-là. Et des gens commençaient à dire, aujourd'hui, on a les infos depuis un an à peu près, de manière beaucoup plus claire, grâce à quelques hauts fonctionnaires, justement, qui ont dévoilé tous les vrais chiffres. Et donc, quand vous mettez « j'ai du temps et je suis sur Internet et on se parle », et que vous rajoutez « il y a plein de gens autour de moi qui sont en train de gagner de l'argent grâce aux cryptos », et qu'en plus, toute la journée, ils entendent parler du fait qu'ils n'auront pas de retraite, et ben ça a créé l'impulsion initiale.
Oui, exactement.
Et moi, j'ai un thermomètre de ça. C'est un groupe sur un réseau social qui s'appelle Reddit, qui est un réseau social assez particulier, puisqu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de pub, enfin, il y a un peu de pub, mais tu ne peux pas créer une page d'entreprise. C'est des gens entre eux qui se créent des groupes de discussion modérés par eux-mêmes.
Ouais, et très ciblés sur des sujets particuliers.
Bon. Quand je commence à faire Trade Republic en France début 2021, il y a 30 000 personnes dans un forum qui s'appelle Vos Finances.
Ouais.
C'est les passionnés de finances personnelles à l'époque.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a 400 000 personnes et ils ont dû créer un deuxième groupe pour les débutants. Donc ça, ça échappe à toute forme de contrôle de qui que ce soit. Et je le dis en rigolant, mais même moi, j'ai pourtant été assez fort sur les réseaux pour essayer de contrôler ce qui s'y passait et la diffusion du message. Là, Reddit, j'ai rien pu faire. Là, c'était intégralement les gens entre eux. Et donc ça, c'est bien.
Ça a
commencé en 2021.
C'est comme le forum à Athènes, quoi.
Depuis, je pense que ce qui se passe aussi, c'est que les gens, quand même, on voit de plus en plus que la France est complètement nue, quoi. Que Il y a plus d'argent nulle part. Il y a plus de contrôle sur.
Je crois qu'il y a quelque chose qui a été dévoilé pendant ces années-là, pendant le Covid, etc. C'est qu'il y avait l'illusion que nos élites avaient la compétence. C'est-à-dire qu'elles, elles paraissaient pas très sympathiques, mais au moins elles avaient la compétence. Et on a bien vu. Il y a plusieurs occasions. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, donc le redémarrage de l'inflation,
il y a eu
etc.
En Afrique.
Voilà, il y a eu tout un tas de succès magnifiques où là, on a vraiment vu tous. Certains en étaient déjà convaincus, mais tout le monde a vu à quel point notre classe politique était incompétente.
Ça, c'est une bonne chose en France parce qu'il y avait une espèce de respect pour l'autorité. Qui m'a toujours sidéré, parce que le français était à la fois irrespecté par l'autorité, mais en même temps, il avait quand même une espèce d'aspiration à quelqu'un là-haut qui lui donnait, le roi de France, qui était compétent, qui faisait ce qu'il fallait sur le long terme. Et ça, ils ont... Ça n'existe plus, quoi.
Non.
Le général de Gaulle disait « Les Français ont tort de se quereller ». Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un comme moi pour venir les sauver.
Oui, exactement. Il avait raison. Il avait raison, mais la vraie solution, c'est que les Français vont peut-être enfin abandonner l'idée de l'homme providentiel. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Suisses ont cet avantage merveilleux. Ce n'est pas le peuple suisse qui est souverain, c'est chaque Suisse. Donc il faut que les Français apprennent à gérer leur vie individuellement, et leur épargne en fait partie.
Et je crois que c'est la raison de la popularité de nos idées actuellement, c'est que beaucoup de gens...
Devenez maître de vous-même.
Ressentent cette envie-là et ce besoin-là, et c'est vrai qu'en France c'est assez nouveau. Voilà, il y a des pays où ça existe déjà depuis très longtemps.
Bah, les Anglais, oui.
En France c'est assez nouveau, et ça vient... et je pense que ça va amener à la fin du consentement à l'impôt à court terme en France, et ça vient d'un problème de souveraineté. C'est un bouquin formidable que j'avais lu en 2013 d'un sociologue qui s'appelle Christian Salmon, qui avait écrit en 2013 La cérémonie cannibale. Il expliquait comment les politiques allaient s'auto-dévorer, disparaître à la une.
Oui.
Il expliquait que la souveraineté qui permet l'adhésion du peuple à cette élite, enfin à ceux qui gouvernent, a besoin d'avoir à la fois une représentation du pouvoir, une image du pouvoir, et en même temps un pouvoir effectif d'impact sur le réel, quoi, de changer le réel. Et il disait en 2013 que l'impact pour changer le réel, la capacité d'action est en fait beaucoup à Bruxelles aujourd'hui, où il n'y a pas d'incarnation du pouvoir. Et l'incarnation du pouvoir reste à Paris, dans la capitale, alors qu'ils n'ont pas tous les moyens d'action. Et donc, en théorie, ce qui se passe ensuite, quand il y a une telle déconnexion, là, moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a très longtemps, les élites ont abandonné le peuple, et le peuple est en train de le réaliser, et de les abandonner à son tour. Et quand il se passe ça, normalement, la suite logique, c'est que les gens arrêtent de payer les impôts. Et là... Et tu te retrouves dans une situation à la grecque, quoi, qui est catastrophique.
Ou alors,
quoi.
Ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai souvent dit, c'est que la gauche a abandonné le peuple et la droite a abandonné la nation. Alors, vous vous trouvez, vous êtes soit à gauche, soit à droite, et vous dites, mais pourquoi je vais voter ?
Ah ben, ils ont tous abandonné la réalité économique, en tout cas.
Ils ont tous abandonné la réalité économique.
La réalité économique n'existe pas.
Donc, ce qu'on essaye de faire, et ce que vous faites, et je suis très content d'avoir que vous soyez là, et tout, c'est que la technologie aujourd'hui permet de rendre... au souverain individuel, chaque individu, la gestion de son épargne, c'est facile. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était une galère si vous aviez votre compte, je sais pas, au Crédit Lyonnais, passer un an, ça vous coûtait la peau des fesses, vous compreniez rien, puis on vous donne envoyer un compte au bout de 6 mois, vous compreniez rien sur le compte parce que c'était très compliqué. Aujourd'hui, vous avez tout en temps réel sur votre ordinateur à la maison, c'est facile. Technologiquement, la technologie accroît cette souveraineté individuelle de façon extraordinaire. Et ce serait dommage pour tous les Français qui nous écoutent, je ne sais pas combien il y en aura, mais de laisser passer cette chance de reprendre leur destin en main. Moi, pour moi, c'est extraordinaire. Je me souviens, quand je gérais de l'argent à Londres, il y a 30 ans, j'avais une salle d'accueil comme ça, dans laquelle il y avait des ordinateurs qui me coûtaient 2 millions de dollars, juste pour enregistrer les ordres. Il y avait des machines qui tournaient, des trucs qui tournaient et tout, ça coûtait la peau des fesses. J'avais 3 personnes qui travaillaient là-dedans. Aujourd'hui, j'ai plus d'informations sur mon petit PC, ça ne me coûte rien. Donc, ils ne s'imaginent pas la révolution qu'il y a eu dans l'information, l'accès à l'information et l'accès aux données. ça coûtait la peau des fesses il y a 30 ans, ça coûte plus rien aujourd'hui. Donc, vous avez le pouvoir de devenir indépendant, quoi. Technologiquement, c'est monstrueux.
Et la barrière d'accessibilité qui reste est une barrière, en fait, très culturelle. Et donc, c'est pour ça, moi, que je suis, autant que je peux, partout, je m'auto-fatigue pour essayer de diffuser. Je crois que j'avais mesuré ça. J'ai fait plus de 1200 interviews en 4 ans.
Waouh.
Probablement quelque chose comme 200 millions de vues en cumulé sur 3 ans. Et c'était une boulimie quasiment, quoi, obsessionnelle de ma part. Ce qui m'amène à une réflexion qui va peut-être vous plaire, Charles, j'espère, qui est que c'est cette révolution-là, ce changement-là, moi, je l'appelle volontairement la transition financière.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'actuellement, le framework mental, la mécanique mentale d'une transition, ouais, c'est bien. C'est quelque chose de bien, auquel personne ne peut s'opposer. Et surtout pas les tenants de la vérité, du politiquement correct, etc. Donc on met le mot transition, là. En plus, une transition, actuellement, c'est quand même un moment où, pour améliorer l'avenir, on change un peu le système et un peu les comportements individuels pour arriver à un bien commun. Mais les transitions qu'on a demandé aux gens de faire, c'est des transitions où ils ont quand même beaucoup moins pour eux-mêmes, pour un bien commun, ou pour les autres.
Pour un bien commun, un commun ennemi, parce qu'ils ne sont pas toujours, ceux à qui on transfère beaucoup d'argent, ne sont pas toujours les favoris des Français non plus.
Et puis il y a la transition climatique aussi, il y en a plein d'autres. Et c'est, la transition financière, c'est d'abord de faire quelque chose pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Vous avez parlé de travailler en famille au début de cet entretien. C'est ce que je fais moi aussi, donc je suis extrêmement attaché à la famille, qui est un facteur déterminant du progrès humain. Je veux dire, c'est pas possible de dire le contraire. Je veux dire, historiquement, c'est mais il se trouve que si ils le font tous et toutes, ce changement pour eux-mêmes et leurs proches, pour le coup, ah bah là, ça sert le bien commun de manière énorme. Et donc, peut-être je suis trop optimiste. En tout cas, je suis trop enthousiaste, ça c'est sûr. Mais j'ai la conviction que si en agissant comme ça à l'échelle individuelle, ce qui va se passer ensuite, c'est que les députés de demain, les ministres de demain, les hauts fonctionnaires de demain, ils seront d'abord passés par une case d'éducation financière personnelle.
Ouais.
Et je l'observe depuis un an. C'était pas le cas avant. Je l'observe depuis un an, moi, dans mes interactions avec les politiques, dont je parle très rarement en public parce que je veux garder l'efficacité justement de la rencontre avec eux. Eh bien, c'est eux qui me contactent depuis un an. Et c'est pas spécifiquement les politiques eux-mêmes qui me contactent, c'est quasiment systématiquement le DIRCAB, ouais, le conseiller numérique ou le conseiller comme, qui sont eux-mêmes clients de Trade Republic pour beaucoup d'entre eux, et qui ont expliqué ça à leur chef politique. Et donc, on n'est pas tout à fait à l'abri d'un succès de remplacement des élites par la jeunesse, en fait.
Ouais. Et par en dessous. Et ce que je reviens toujours à une idée qui m'est chère, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration collective, il n'y a des améliorations qu'individuelles. Donc si on a réussi à améliorer chacun des Français, individuellement, ou une partie importante des Français, la société sera meilleure.
Forcément, parce que quelqu'un qui est éduqué financièrement par ailleurs, le populisme économique, il fait « Oh, pas à moi, quoi, tu vois. » Donc, il y a ça. L'exigence envers les journalistes aussi, qui sont pas toujours sur les questions économiques. Voilà. Donc, c'est une bonne chose.
Mais c'est un combat à 40 ans. Ou à 20 ans, au moins.
Oui, mais... Non, c'est pas grave. Ce qui est, je trouve moi que dans le, enfin, je considère en tout cas que dans la vie et de manière générale, ce qui a beaucoup de valeur en général prend du temps. Et voilà, ce qui est beau et
ce qui est essentiel,
bon,
c'est pas de réussir, c'est de se bagarrer.
Et donc,
moi j'aime le
est-ce
bagarre.
Que ça peut aller plus vite que 15-20 ans?
Je sais pas.
Peut-être parce que Internet nous a prouvé, moi c'est ma plus grande surprise de ces dernières années, que ça pouvait se diffuser vraiment très vite pour le coup.
La vélocité de l'information.
Ah, c'est incroyable. C'est ça, c'est ce qui me, c'est ce que j'appelle la république des commentaires.
Ouais.
C'est que vous avez des mecs qui ont été formés il y a 2 semaines,
ouais,
qui viennent dans les commentaires expliquer aux nouveaux, ouais, qui arrivent, etc. C'est fabuleux.
Ouais,
c'est vraiment très réjouissant.
On le voit très bien.
Ah, c'est très réjouissant.
Sur notre forum, il y a des systèmes d'entraide qui se sont mis en place naturellement.
Sûr, comme du compagnonnage un peu.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Complètement.
Et à chaque fois que quelqu'un, moi, vient me parler dans la rue ou vient me, enfin bref, je dis toujours la même chose. J'y écoute, si t'as appris un truc avec mon bouquin, avec ma vidéo, avec mes cahiers de vacances, avec ce que tu veux, si t'as appris un truc, tu prends quelqu'un de ton entourage et tu lui apprends.
Ouais.
C'est tout ce que je te demande.
Transmettre.
Et d'ailleurs, un par un, ça fait une blockchain humaine de l'éducation financière.
Et c'est un bon moyen d'ailleurs de savoir si on a bien compris quelque chose. C'est de l'enseigner.
Ah, évidemment, si on n'a pas compris quelque chose, il faut l'enseigner.
Ouais. Oui.
Ça marche à tous les coups, parce qu'à ce moment-là, on a besoin de comprendre.
C'est fou. Mon père, taquin, me dit en général que c'est pour ça que je fais de l'éducation financière. Étant jeune, j'étais un très mauvais gestionnaire. Moi, c'était catastrophique.
Bon, on arrive à un petit peu plus d'une heure d'entretien, donc on
aurait pu.
Ah, oui. C'est passé vite, ouais. Après, tu es le bienvenu pour revenir quand tu veux. Et
alors, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est qu'on a l'université de l'épargne. On a développé à partir de l'Institut des Libertés, qui était un truc où finalement on expliquait aux gens ce qui se passait de façon tout à fait gracieuse. Et puis il y en a tout un tas qui nous demandaient non, on veut apprendre, alors là on a besoin de faire des investissements, ça nous coûte un peu d'argent, donc on vous a demandé un peu d'argent. Mais il faut bien vous rendre compte que vous avez maintenant toute une espèce de maillage de gens, d'entreprises qui se mettent à votre service pour vous aider. C'est à vous, qui nous écoutez, de les utiliser intelligemment. À partir, si j'ose dire, là, on vous donne des instruments, des outils, si vous voulez faire un orchestre symphonique, il faut quand même que vous jouiez des instruments vous-même, quoi. Il me semble que vraiment, c'est le moment venu où chacun doit prendre son destin en main, quoi. C'est beaucoup plus facile de prendre son destin en main qu'il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, c'était pas possible.
C'est plus facile que jamais, clairement. Je vous remercie infiniment pour avoir suivi cet entretien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés. Merci beaucoup, Mathias, d'être venu.
Merci à vous. Fois.